France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Antoinette, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique c'est Noé Chaban. Antoinette Benoît, bien sûr. Des élections fédérales anticipées se tiendront en Allemagne le 23 février, provoquées par la chute de la coalition en novembre, et ce sont toutes les certitudes d'une nation qui vacille. Nous parlerons cette semaine du poids de la fracture sociale qui persiste entre l'Est et l'Ouest, de la transition énergétique dans le rouge, des hésitations de Berlin en matière de politique étrangère. Aujourd'hui, les enjeux politiques du vote, avec l'AFD, un extrême au centre du jeu. Le chef de la CDU, Friedrich Merz, reprend à son compte aujourd'hui certains de ces thèmes.
Das Maß ist endgültig voll.
Nous avons finalement atteint le point de rupture. Nous sommes confrontés au désordre d'une mauvaise politique d'asile et d'immigration en Allemagne depuis 10 ans.
Weil Sie, Herr Merz,
la vérité est que vous, Monsieur Merz, avez accepté qu'une majorité des membres de l'AFD vous soutiennent, alors que beaucoup vous en avez dissuadé. Vous n'avez pas respecté votre parole. Oui, c'est un tournant. C'est une faute qui a des conséquences.
Depuis la création de la République fédérale, il y a plus de 75 ans, il y a toujours eu un consensus clair au sein des partis démocratiques. On ne fait jamais cause commune avec l'extrême droite, surtout pas au Parlement. Et vous, Monsieur Merz, vous, la CDU, vous enfreignez ce principe fondamental de notre République pour aller dans le sens du vent.
C'était le 29 janvier dernier, à la tribune du Parlement allemand, le Bundestag. Olaf Scholz prenait un ton grave pour blâmer son principal adversaire, Friedrich Merz, candidat de la CDU pour les élections fédérales à venir. En pleine campagne pour ce scrutin anticipé, celui-ci a pris une initiative qui a divisé jusque dans son camp, proposer une loi très répressive en matière d'immigration, en reprenant à son compte une rhétorique qui était jusque-là l'apanage de l'AFD, Alternative für Deutschland, parti sur lequel il comptait pour faire passer son texte. C'est une valeur cardinale qui a été brisée ce jour-là, celle du Brandmauer, le cordon sanitaire ou pare-feu. Ce principe qui interdit aux partis politiques de coopérer avec l'extrême droite et la maintient à l'écart de la vie parlementaire, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le racisme, pas avec nous. L'extrême droite, on a déjà essayé, on scandait ce week-end encore 250 000 à 320 000 manifestants à Munich. Ils étaient également des dizaines de milliers à Berlin, juste après la manœuvre de Friedrich Merz au Parlement. Preuve que si l'AFD a réussi à déplacer le spectre du discours politique, elle n'a pas totalement réussi à imposer ses thèmes dans la société allemande, et ce malgré plusieurs attentats qui ont endeuillé ces 6 derniers mois des villes moyennes qui se pensaient sans histoire, attentats perpétrés par des étrangers, pour le dire vite, 2 en situation irrégulière et 1 qui avait obtenu le statut de réfugié en 2016, un Saoudien mais qualifié d'islamophobe par les autorités allemandes. Bonjour Bénédicte Lomont.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, membre du laboratoire CESDIP, qui est le centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Bonjour Étienne Dubslaff.
Bonjour.
Bienvenue à vous dans ce studio. Vous êtes maître de conférence en histoire et civilisation germanique à l'université Paris-Nanterre, membre quant à vous du laboratoire CEREG pour centre d'études et de recherche sur l'espace germanique. Étienne Dubslaff, puisqu'on est au lendemain d'un débat télévisé qui devait être une sorte de jalon dans cette campagne électorale, entre Olaf Scholz, chancelier sortant et candidat du SPD, le parti de gauche traditionnel, et Friedrich Merz, son adversaire de droite de la CDU. Est-ce que vous avez pu en avoir des échos de ce débat, en regarder quelques bribes? Est-ce qu'il est de nature à faire virer le vent de la campagne?
Alors, ça, on verra.
La plupart des commentateurs ont dit que c'était, alors en fonction aussi de la couleur politique bien sûr, que c'était soit une petite victoire pour Scholz, donc pour le sortant, soit une petite victoire pour Merz, donc c'est plus ou moins un match nul. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la question de l'immigration, et surtout de l'immigration illégale, et comment la gérer, comment aussi reconduire à la frontière, comme on dit, des étrangers en situation irrégulière, a été au centre des débats et a donné lieu à des controverses, moins sur le fond d'ailleurs, puisque quelque part il rivalisait un petit peu il rivalisait plutôt pour la reconduite à la frontière. La grande question, c'est effectivement Merz est plus sur limiter dans l'absolu l'immigration, là où Scholz, qui est aux affaires, indique quand même que l'immigration, l'Allemagne en a sacrément besoin. Et ça, Merz le sait très bien par ailleurs. Mais l'Allemagne en a vraiment besoin, qu'on le veuille ou pas. Et donc Scholz fait bien le distinguo, beaucoup plus qu'à droite, entre l'immigration clandestine, entre guillemets, subie, et l'immigration souhaitée par, et encore une fois, dont l'Allemagne a besoin.
En disant que l'Allemagne en a besoin, Olaf Scholz, tout comme Friedrich Merz d'ailleurs, semblait hier vouloir remettre le débat sur l'économie, l'économie allemande qui a traversé deux ans de récession, ce que Friedrich Merz n'a pas manqué de rappeler à Olaf Scholz. Donc le débat progressivement quand même hier s'est remis sur les rails de l'économie et des problèmes sociaux allemands.
Alors je pense que c'est plutôt au contraire. En fait, l'immigration c'est toujours... je dirais pas un écran de fumée, mais ça permet de parler d'autre chose. Et ça permet aussi de mobiliser, bien sûr, dans les deux sens, puisque vous l'avez rappelé, il y a aussi des manifestations anti-Merz qui ont vu le jour. Donc ça mobilise de part et d'autre. Et ça paraît parfois peut-être plus simple de proposer des réponses à l'immigration que de résoudre des questions économiques ou sociales. Et la crise allemande, elle est de faible intensité pour l'instant, mais elle est quand même là, elle guette. Et... Scholz aurait peut-être plus intérêt à parler plus social au moins et peut-être même économie. Merz peut-être moins parce que il risque quand même fort d'arriver aux affaires et il sera mesuré évidemment à l'aune de ce qu'il propose. Et donc il me semble que ça fait quand même largement diversion cette question de l'immigration et ça permet effectivement de pas trop parler d'économie et de social.
En tout cas, Olaf Scholz n'a pas manqué de rappeler à Friedrich Merz combien sur le fond, sur la forme cette fois, tout ce qui avait été entrepris ces dernières semaines l'avait choqué comme une grande partie de l'Allemagne. Alors est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce qui s'est passé en janvier quand le patron de la CDU, Friedrich Merz, a présenté d'abord une motion puis un projet de loi sur l'immigration devant le Parlement. D'abord, quelle est la différence entre les deux, Bénédicte Lomont, entre une motion et un projet de loi?
La différence centrale, c'est que la proposition de loi, lorsqu'elle est votée, après, en tout cas, c'est ce qu'on est en droit d'en attendre, va être mise en œuvre. Et là, ce qui a été effectivement assez marquant, c'est qu'il y a eu deux étapes principales, avec une première étape où les observateurs, on va dire, de la politique allemande ont effectivement constaté un tournant. Alors, un tournant quand même relatif, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais effectivement un tournant, puisque on voit une collaboration de fait dans l'espace parlementaire fédéral, ce qui est nouveau. Encore une fois, c'est pas complètement étonnant que ce soit nouveau, puisque l'AfD n'est rentrée qu'assez récemment au Bundestag, contrairement au Rassemblement National, par exemple, en France. Et deuxième étape, quelques jours après ou une semaine après, effectivement, fort d'une mobilisation de la société civile, là encore, je pense que c'est une catégorie d'acteurs importante pour comprendre ce qui se trame actuellement en Allemagne, fort de la mobilisation d'une partie de la société civile contre cette collaboration entre un parti de droite traditionnel, la CDU, l'Union et l'AfD, donc l'extrême droite, revirement de situation. Et donc là, la proposition de loi n'aboutit pas. Et on retombe dans ce que l'Allemagne sait bien faire, effectivement, c'est-à-dire la tenue quand même d'un cordon sanitaire que l'on connaît un petit peu en France par ailleurs.
Dans le détail, est-ce qu'on sait qui a voté pour le texte? Parce que la motion, elle, a été votée. La proposition de loi, le texte de loi ne l'a pas été. Est-ce qu'on en sait plus dans le détail, Étienne Dubslav?
Oui, alors dans les deux cas, c'était des votes solennels, donc on sait parfaitement qui a voté. Et tout le groupe parlementaire de la CDU-CSU, donc de la droite, a voté pour, à l'exception d'une députée de l'Est, d'ailleurs, soit dit au passage, de Thuringe, si je ne m'abuse. Une bonne partie des libéraux, ça a été un peu une surprise pour moi, très honnêtement, l'a voté aussi. Et l'AFD, bien sûr, dans son intégralité. Et aussi le BSW, donc le Bündnis Wagenknecht, qui est ce parti un peu étonnant, mais qui a aussi...
Plutôt situé à l'extrême gauche, on en parlera dans le focus.
Sur le plan économique, mais quand même très à droite aussi sur l'immigration, qui a donc voté... Enfin, les députés qui s'en revendiquent ont voté cette proposition de loi aussi.
Et vous disiez que vous étiez surpris par le vote des libéraux. Pourquoi ?
Parce que les libéraux... ils auraient pu se distinguer de la CDU et donc se mettre en avant comme alternative, si le mot est malheureux.
Alternative pour Deutschland.
Voilà, mais comme alternative aux droites plus dures en fait. Hein, et essayer de grappiller quelques voix de ceux qui sont de droite mais qui ne veulent pas de ça. Mmh. Et donc le FDP a fait au contraire le choix de suivre la ligne de Merz. Rappelons au passage quand même que Angela Merkel, l'ancienne chancelière, a désavoué, non pas d'ailleurs sur le fond du texte, mais a désavoué solennellement, si je puis dire, elle qui est tellement réservée déjà d'une manière générale et qui ne commente jamais la politique intérieure depuis qu'elle n'est plus aux affaires, a désavoué vraiment Merz. Hein, donc il y avait quand même des voix à aller chercher éventuellement parmi ceux au moins qui sont un peu nostalgiques de la chancelière Merkel.
Alors que, comme vous le disiez, tous les élus de la CDU qui étaient présents dans l'hémicycle, parce qu'ils ne l'étaient pas tous, je crois qu'il en manquait 12 à l'appel, en tout cas tous ceux qui étaient là, sauf une, ont voté pour ce texte sur l'immigration. Est-ce que ça veut dire, Bénédicte Lomont, que toute la CDU a viré à tribord, malgré ce que dit aujourd'hui Angela Merkel, qui s'en défend et qui marque une distance, est-ce que ça veut dire que tous approuvent une stratégie de droitisation du parti?
Je dirais que là, pour le coup, au sein de l'Union, donc CDU et CSU, hein, si on prend en compte aussi la droite chrétienne, on va dire, en Bavière, c'est important de voir qu'on est face à un parti divisé. Et c'est quelque chose qui nous est peut-être un petit peu moins familier en France, où on a observé depuis une dizaine d'années vraiment la droitisation des Républicains. En Allemagne, on n'est pas exactement dans le même contexte. Il faut rappeler que Friedrich Merz est certes président de la CDU, mais ça a été compliqué. Ça fait quand même quasiment 10 ans qu'il s'y essayait. Il a raté le coche plusieurs fois. Donc c'est pas non plus un leader complètement incontesté. C'est un leader qui, d'ailleurs, depuis très longtemps, assume sa volonté de coopter les messages de l'extrême droite pour essayer de garder ses électeurs, voire d'en gagner de nouveau. Bon, force est de constater que c'est a priori pas ce qui marche, c'est pas ce qui a marché dans les pays voisins, c'est pas ce qui semble marcher en Allemagne. Donc, Friedrich Merz, c'est pas une figure incontestée. Et... au-delà de ce qui se passe au sein du Bundestag, il y a quand même beaucoup d'élus de l'Union aussi dans les Länder, dans les communes. Les enquêtes que j'ai pu mener, notamment en Bavière par exemple, où la CSU a tenté un petit peu ces stratégies-là depuis plus longtemps que la CDU, y compris la CSU, dans un land très conservateur, a toujours été divisée. Vous avez toujours eu des élus, des militants, y compris d'un parti quand même très à droite, qui ont toujours dit, ces 10 dernières années, non, nous ne pactiserons pas avec l'extrême droite en raison de notre histoire, mais aussi en raison des liens. On parle de chrétiens démocrates. C'est une famille politique qu'on n'a plus trop en France, mais qui est proche des églises protestantes et catholiques principalement. Les églises, depuis une dizaine d'années en Allemagne, ont une position très très claire vis-à-vis de l'AFD. C'est non seulement nous ne sommes pas d'accord avec leurs idées, nous ne les invitons pas. Et là, on a aussi bien chez les protestants que chez les catholiques, des hiérarchies, hein, parce que c'est aussi des églises de métier, qui commencent à se séparer d'hommes d'église, principalement d'hommes, qui seraient trop proches de l'AFD. Donc si vous voulez, on a quand même des acteurs centraux de la société civile allemande, historiquement proches des partis chrétiens démocrates, qui disent « nous ne voulons pas de cette idéologie » dans notre institution. Et ça a un impact évidemment sur la vie politique interne des partis de l'Union.
Voilà, donc toute une frange de la droite traditionnelle allemande qui aujourd'hui désavoue Friedrich Merz, leur représentant, celui qui est censé les représenter. Les ministres-présidents des Länder gouvernés par la CDU par exemple ont tous désavoué Friedrich Merz récemment. Alors lui, il est assez difficile à suivre puisque c'est lui qui a présenté ces textes qui durcissent l'immigration et qui devaient avoir le vote de l'AFD pour passer. Et en même temps, il se défend en disant que jamais il ne coopérera avec l'extrême droite. Il l'a redit. quelques jours après le vote au Parlement, devant le congrès de la CDU le 3 février.
L'idéologie de l'AfD va à l'encontre de tout ce que notre parti et notre pays ont accompli ces dernières années et ces dernières décennies. L'AfD menace notre appartenance au camp occidental, à la zone euro et à l'OTAN. C'est la raison pour laquelle nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir durant cette campagne électorale pour limiter autant que possible le score de l'AfD dans les urnes. Il n'y a pas de place pour la coopération, pas de place pour la tolérance, pas de place au gouvernement pour eux. L'AfD est notre adversaire numéro un durant cette campagne. Nous voulons en refaire un petit parti qu'il retourne à la place qu'il mérite, celle d'un parti marginalisé. Il n'y aura pas de « oui mais », pas de « et si ». L'AfD n'a rien à voir et rien à faire avec nous.
Alors si jamais la CDU ne coopérera avec l'extrême droite et l'AfD, Étienne Dubslav, comment expliquer que Friedrich Merz ait pris cette initiative à quelques semaines d'un scrutin où il est donné favori, où la CDU, son parti, est donné favori, et pris cette initiative d'une proposition de texte devant le Parlement?
Alors, c'était effectivement assez étonnant. Alors, il faut rappeler aussi que, vous l'avez dit, Merz lui-même aussi, quand il a été la première fois président du groupe parlementaire de la CDU-CSU autour des années 2000, avait déjà commencer à essayer d'imposer, par exemple, une sorte de culture dominante qui serait allemande, par opposition à ce que serait le multiculturalisme, plutôt gauchiste, n'est-ce pas? Donc c'est pas la première fois qu'il essaye. Il y a aussi le côté, vous avez parlé de la CSU de la Bavière. Il y a aussi l'ancien ministre-président Franz Josef Strauß, qui est un peu un héros, un surpère bavarois dans les années 70 et 80, qui avait donné comme mission aux deux partis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de parti à droite de la CSU ou de la CDU. Ce qui ne voulait pas dire, en revanche, et ça c'est la grande différence, qu'il fallait faire du fascisme. Ça voulait juste dire qu'il fallait traiter les problèmes pour qu'il ne puisse pas y avoir d'extrême droite. Bon, alors qu'est-ce qu'il a voulu faire? Plafonnait en fait autour des 30-31%, alors qu'effectivement quand les élections ont été amenées, on avait vraiment une crise politique rare en Allemagne, soit dit au passage, hein, parce que la politique en Allemagne est autrement plus stable qu'en France.
L'explosion de la coalition en novembre, c'est quelque chose d'assez rare en Allemagne.
Absolument. Et donc du coup aussi un sentiment de vraie crise. Donc il était donné gagnant facilement et je pense qu'il remportera les élections et je pense que ça sera le prochain chancelier. Mais je pense qu'il voulait quand même essayer de passer vraiment au-dessus des 30, largement. D'autant que s'il passe un peu au-dessus des 30, que pas mal de partis ne rentrent pas au Parlement, ça lui donnera vraiment une position de force pour imposer aussi quelque part une coalition à des partis de centre-gauche. Ne serait-ce qu'aussi pour dire que pour laisser planer le doute, même si je suis convaincu qu'il ne s'alliera pas à l'AfD, laisser planer le doute ou faire pression au moins sur ces partis, si c'est pas avec vous que je fais coalition, ou plutôt si vous ne vous soumettez pas, il faudra bien que j'aille chercher ailleurs. Bon, donc à l'extrême droite. Ceci dit, lui-même l'a exclu formellement, effectivement. Le secrétaire général du parti a redit aussi que s'il n'y avait pas de majorité, il n'y aurait pas de gouvernement, tout simplement. Donc, la question ne se pose pas immédiatement. Mais effectivement, je pense que c'était pour faire un coup politique et aussi pour essayer de grappiller des voix. Ce qui est intéressant, c'est que ça lui a pas, quand on regarde les sondages, ça lui a pas encore coûté cher, puisque la CDU-CSU a perdu 1 ou 2%, mais bon, ça reste quand même finalement dans cette marge d'erreur. L'AfD elle-même a pris 1 ou 2%, donc ça profite à l'AfD si ça profite à quelqu'un. Et les autres partis du centre-gauche, qui sont surtout ceux qui sont dans la rue actuellement, qui se battent comme ça, n'ont absolument pas pris de voix. Donc en fait, voilà.
Donc un coup politique, dites-vous, de Friedrich Merz quelques semaines avant les élections et juste après l'attaque au couteau d'Aschaffenburg, d'ailleurs perpétrée par un Afghan en situation irrégulière sur le territoire, qui a tué un enfant de 2 ans et un adulte, un homme qui a bien sûr ému toute l'Allemagne et sur lequel Friedrich Merz s'est appuyé pour proposer ces textes sur l'immigration, dont j'ai pas dit un mot, mais qui veut rendre permanent les contrôles aux frontières de l'Allemagne, bloquer tous les étrangers sans papier à la frontière, y compris les demandeurs d'asile, et également faciliter le placement des étrangers sans papier dans des centres de rétention. Alors si lui, Friedrich Merz, se défend d'être là dans une stratégie de reprendre à son compte une rhétorique de l'extrême droite et d'aller chercher des voix à l'extrême droite, Bénédicte Lomond, au sein de l'AfD cette fois, comment est-ce qu'on réagit à cette reprise en main par la CDU de son sujet phare?
Bon, Là, je pense qu'on l'a un petit peu entendu dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure. On a évidemment des leaders qui s'en satisfont, qui le mettent bien en avant dans leur discours, effectivement, alors que ce soit aux journalistes ou leur discours politique, et qui s'en satisfont. Tout à fait par ailleurs, pour la comparaison, ce qu'on peut observer en France, lorsque une partie de la droite reprend aussi les thèmes de l'extrême droite et dans le cadre français du Rassemblement national, évidemment.
Donc l'AFD sait que ça paye, entre guillemets.
Bien sûr, tout à fait. Elle le sait de l'expérience de ses voisins, et puis elle commence à le constater dans son espace national, sans aucun doute, oui.
Donc comment est-ce qu'on a réagi? Est-ce qu'il y a eu des réactions officielles, des discours officiels sur cette proposition de loi, par exemple, de se féliciter de ce que la droite allemande reprenait à son compte les...
C'est ça, de s'en féliciter, et puis très régulièrement d'assurer que l'AFD, si elle arrivait aux affaires, pourrait conduire ce type de politique, pourrait aller plus loin.
Souvent, oui, parce qu'à l'inverse, ça pourrait l'inquiéter plutôt de se dire que la CDU allait lui siphonner des voix, mais c'est pas...
Non, parce qu'ils savent des expériences européennes que c'est pas ce qui se passe, que la cooptation par les partis, alors souvent de droite, mais dans d'autres espaces européens, parfois par les partis de centre-gauche, la cooptation de l'extrême, des messages de l'extrême droite par ces partis-là profite aux partis d'extrême droite à moyen terme. Donc l'AFD le sait et s'en satisfait à raison, je crois.
Je l'ai dit un jour gentiment à M. Merz, en lui rappelant une fois de plus la bonne éducation dont il a bénéficié, d'où le dicton « on ne joue pas avec les nazis ». Il a essayé et j'espère qu'il recevra ce qu'il mérite pour, appelons ça, sa mauvaise conduite, si l'on peut dire.
160 000 personnes, d'après la police, avaient participé le 2 février à une grande marche à Berlin, mais aussi à Cologne, Hambourg, Leipzig, Stuttgart. À Berlin, elles s'étaient retrouvées sur la place de la République, là où Adolf Hitler avait obtenu les pleins pouvoirs en mars 1933 avec le soutien des conservateurs. Et ce qu'on entendait dans les cortèges, c'était on sait comment ça s'est passé en 1933, y compris de la part d'électeurs conservateurs, Bénédicte Lomont, il y avait des électeurs de la CDU dans ces manifestations?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si on ouvre un petit peu les journaux de la presse allemande, on voit de belles photos qui l'illustrent très bien, notamment dans les manifestations en Bavière, avec par exemple des nonnes qui sont allées manifester en habit d'église, donc pour revenir sur l'importance de certains acteurs, certaines actrices conservatrices en Allemagne, tout à fait. Donc là, on est dans des manifestations qui rassemblent des personnes très différentes qui ont en commun, généralement, effectivement, d'avoir un engagement humaniste. Donc, on a évidemment des représentants de partis centristes, à gauche, d'extrême gauche, et puis ensuite des acteurs de la société civile. Alors, on a pas mal parlé des acteurs de l'Église. On a évidemment toute une gamme d'acteurs de la société civile qui s'engagent, par exemple, pour l'accueil des personnes migrantes, des demandeurs d'asile. Donc, effectivement, on a une population mobilisée assez large, sur un spectre assez large de la société.
Avec d'ailleurs des corps intermédiaires ou des pans entiers de la société civile qui sont très soutenus par la culture politique allemande et par les gouvernements allemands qui se succèdent. Enfin, ces manifestations, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent aussi de cette société civile très forte et très fortement représentée.
Tout à fait, qui a un impact aussi dans ce qui se passe dans la vie interne des partis. C'est peut-être, pour en rajouter une couche, expliquant aussi la sorte de revirement, mais dont il est spécialiste, de Friedrich Merz, qui est très conscient qu'il ne peut pas devenir chancelier, mener des politiques sans le soutien d'un certain nombre de ses corps intermédiaires et de cette société civile.
Et dans ces manifestations, on a entendu ce mot de Brandmauer, qu'on traduit ici en France par cordon sanitaire, qu'on peut traduire par pare-feu. Est-ce que c'est un accord uniquement tacite ou un réel engagement de la part des partis traditionnels et du PSLAF? Jusqu'où peut-on faire remonter cette... Enfin, oui, si on sait, fin de la Seconde Guerre mondiale, les partis qui disent « plus jamais ça, plus jamais l'extrême droite à nos portes, plus jamais l'extrême droite avec nous ». Mais est-ce qu'il y a quelque chose de formel et d'écrit dans cet accord-là?
Alors non, je ne crois pas que ça soit écrit, mais par contre, il y a un vrai accord ouvert. Et vous avez passé Merz tout à l'heure qui continue quand même de l'utiliser. Vous avez vu aussi qu'il y a eu des élections régionales en Allemagne de l'Est au cours des derniers mois où. Par exemple, le ministre-président de Saxe, qui lui-même est quand même classé très à droite et qui lui-même, des fois, se pose quand même la question de savoir s'il ne faudrait pas un jour coopérer avec l'AFD, a soutenu quelques mois plus tard l'élection du ministre-président social-démocrate dans le Brandebourg. Donc il y a quand même ces accords. Vous avez dit aussi que plusieurs ministres-présidents de droite aussi, d'ailleurs, font pression sur Merz, effectivement, pour maintenir ce cordon sanitaire. Après, il est vrai aussi que ce sont ceux qui soutiennent le cordon sanitaire, ce sont souvent ceux qui étaient aussi dans la lignée plus modérée d'Angela Merkel. Et on voit que le parti est effectivement divisé sur cette question, mais on voit aussi que les militants semblent être, en tout cas pour partie, plus à droite que leur élite. Et donc il y a aussi, vous l'avez dit, bénédictement, il y a aussi un soutien de cette ligne-là, effectivement. Non pas, encore une fois, de tomber dans le fascisme, mais d'aller vraiment, sur ratisser et surtout traiter les problèmes, n'est-ce pas ? Donc voilà.
C'est vrai qu'on parle de ce qui s'est passé en janvier comme d'une rupture, parce que Friedrich Merz a franchi un cap. C'était la première fois que cette coopération avec l'extrême droite était transposée au niveau fédéral, mais au niveau local, régional, au niveau des Länder, Bénédicte Lomont, ça c'est quelque chose qui s'est déjà vu, et notamment en Thuringe en 2020. Donc le cordon sanitaire, vous l'avez vu s'éroder petit à petit, quand en Thuringe, le président Thomas Kemmerich, c'est un libéral, lui, c'est ça, du FDP, a été nommé grâce aux voix de la CDU et des libéraux, Alliance Classique, mais aussi de l'AFD.
Oui, donc ça a été le premier moment très marquant qui a donné lieu à un revirement de situation, exactement comme ce qu'on a vu il y a deux trois semaines maintenant, c'est-à-dire que le président Kemmerich, très bref président, puisque finalement une élection a eu lieu à nouveau par la suite, et puis finalement le ministre-président et le ministre-président du parti Die Linke, donc de gauche radicale, donc il y a eu un revirement de situation suite à l'émoi national, voire même international, je me souviens qu'on en a, y compris en France, pas mal parlé. S'amusant probablement par rapport à ce qu'on connaît en France d'un tel émoi pour quelque chose qui nous paraît assez banal peut-être en France aujourd'hui. Et par ailleurs, on a de manière beaucoup moins visible des tentatives, surtout effectivement dans les parlements des Länder de l'Est où l'AFD est plus forte et donc où la CDU est probablement plus fortement mise sous pression, ces tentatives de coopérer de manière très ponctuelle sur des projets de réforme, y compris dans les communes aussi. Pour autant, et il faut quand même être très clair, surtout pour des auditeurs français, cette collaboration est extrêmement marginale. Là, on vient de finir une étude comparée avec plein de pays européens. L'Allemagne, dans l'arène politique allemande, se marque et se caractérise vraiment par rapport à tous ses voisins par la tenue d'un cordon sanitaire, y compris dans la vie parlementaire, dans les Länder, y compris dans les Länder de l'Est, comme un cordon sanitaire assez robuste. Encore plus robuste que ce que l'on peut connaître en France, sachant qu'en France, on est aussi connu pour avoir un cordon sanitaire relativement fort, sachant que le RN est en place depuis des décennies désormais.
Étienne Dubsaf.
Oui, je voulais rebondir, effectivement. Il y a aussi des cordons sanitaires qui sont peut-être plus symboliques qu'autre chose, mais l'AFD a essayé pendant des semaines et des semaines de faire élire un vice-président au Bundestag, et les partis ont tous voté contre, et ils en ont présenté 4 ou 5, y compris ceux qui sont censés être les plus modérés, qui proviennent parfois, qui sont parfois des anciens de la CDU, et tous ont été échoués, alors qu'on sait qu'en France, on a des vice-présidents de l'Assemblée nationale RN.
Plus depuis l'été dernier, si je peux me permettre.
Ah, bah
pour continuer
à la Chambre et des postes de président de commission. Et c'est pas le cas en Allemagne.
Et au niveau des Länder, ce qui se passe aussi, et c'est peut-être une question qui se posera in fine au plan national, il y a aussi la question effectivement de est-ce qu'on peut encore construire des coalitions contre ? Parce que c'est ça aussi, ça revient à ça. Et quand vous avez des surtout à l'Est, ça se joue plus là parce que les partis sont moins implantés en fait, alors qu'ils restent encore fort en Allemagne de l'Ouest, vraiment dans leur structure. Ben, quand vous avez une CDU qui fait entre 20 et 30%, très bien. Le SPD qui, dans certains landes, est à 5, 6, 7%, que vous n'avez plus de FDP, donc de libéraux, les Verts qui ne rentrent pas systématiquement non plus, l'extrême-gauche qui ne rentre plus tellement, il y a un moment, effectivement, si vous voulez atteindre les 50% dont vous avez besoin, au moins pour vous faire élire chancelier ou ministre-président, vous avez la question d'effectivement comment construire des coalitions. Et ça donne des coalitions qui peuvent être un peu contre nature et qui après sont très peu stables. On n'en est absolument pas là au niveau fédéral, mais d'une certaine manière, la coalition sortante a aussi volé en éclat, parce que cette coalition social-démocrate vert, ça c'est plus ou moins fait pour s'entendre, mais avec les libéraux, il y a quand même des vraies différences de ce qu'on appelle Weltanschauung en allemand, de vision du monde. Et effectivement, ça donne lieu, et c'est bien naturel, à des conflits permanents dans un pays où on n'aime pas les conflits permanents.
Avec cette coalition, par exemple, assez contre nature, qui s'est montée en Thuringe en décembre dernier, alors que deux mois plus tôt, l'extrême droite était arrivée en tête avec 32,8% pour l'AFD. Ça a donné lieu à une alliance inédite entre le SPD et le parti BCV, dont on parlera en focus, qui est d'extrême gauche sur les questions économiques, mais anti-immigration. En tout cas, cette culture politique du cordon sanitaire, vous le dites, est toujours très ancré en Allemagne, mais l'AFD tente quand même de le retourner en sa faveur en le présentant comme un déni de démocratie.
Glauben Sie im Ernst, Herr Merz, Sie könnten den Bürgern vormachen, dass mit ihnen irgendetwas besser.
Est-ce que les citoyens allemands pensent sérieusement que M. Merz pourrait mieux les défendre contre la menace migratoire, alors que son parti, la CDU, continue à courtiser les Verts et le SPD pour former une coalition? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit quand il parle de cordon sanitaire, qui n'a aucune existence juridique, soit dit en passant. Ce cordon sanitaire n'est rien d'autre qu'un accord antidémocratique passé entre partis appartenant à un même cartel politique, dans le but de bafouer la souveraineté de millions d'électeurs.
Alice Weidel, c'est elle qui représente l'AFD pour ces élections fédérales. C'est d'ailleurs la première fois qu'une candidate, en l'occurrence de l'AFD, se présente à des élections pour la chancellerie. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, l'AFD se présente comme un parti de gouvernement? Est-ce qu'il a les moyens, ne serait-ce que de construire un programme et de présenter des candidats sérieux? Alors là, on parle de la chancellerie, c'est particulier, mais s'il pense au coup d'après, l'AFD, Bénédicte Lomont.
Alors, sur la capacité de l'AFD à présenter des candidates et des candidats sérieux, c'est effectivement une problématique qui se pose à eux, comme la problématique de partis d'extrême droite partout en Europe. On l'a bien vu en France l'année dernière également. Et ce qui s'est passé ces dernières années pour pallier ce problème qui est quand même réel, notamment en termes de personnel politique, c'est-à-dire qui va venir aider les députés élus au Bundestag de l'AFD. Eh bien, en fait, ce qu'on observe depuis quelques années, c'est que l'AFD s'est beaucoup reposé sur toute une sphère de l'extrême droite allemande qui est très radicale. Et ce qui explique aussi pourquoi l'AFD est aujourd'hui surveillée par les services de renseignement. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. Effectivement, Alice Weidel dit, bon, le cordon sanitaire, ce Brandmauer, ce n'est pas une réalité juridique. Oui, mais un petit peu quand même, parce qu'on est quand même dans un pays où les services de renseignement observent les activités de ce parti en disant « attention, un certain nombre des activités, des messages, du programme en fait de ce parti est potentiellement anticonstitutionnel ». Et c'est là où finalement l'argument d'Alice Weidel sur « finalement on a une caste politique qui nous exclut », alors elle n'est pas complètement faux, mais en réalité, il faut bien comprendre que le cadrage allemand vis-à-vis de l'extrême droite, c'est pas tant de se dire on a des millions de personnes qui votent pour ce parti. Pour un certain nombre d'acteurs politiques allemands, c'est assez secondaire. Ce qui compte, c'est dans quelle mesure on a une offre politique qui s'inscrit dans les limites de ce que notre démocratie tolère, pour de bonnes raisons, vu l'historique qu'on a. Et dès lors qu'on a un parti, même si celui-ci attire des millions d'électrices et d'électeurs qui se placent en dehors de ce cadre constitutionnel, en fait, c'est pas notre problème, sa popularité. Notre problème, c'est que les partis soient diverses, mais dans un cadre donné. Et avec l'AFD, c'est pas le cas.
Mais d'ailleurs, on en a beaucoup moins parlé alors que ça s'est passé juste après cet examen au Parlement des textes sur l'immigration. Mais c'était le lendemain même du vote de la motion sur l'immigration. Une autre motion a été examinée par les députés du Bundestag et qui portait sur l'interdiction de l'AFD. Etienne Dubslaff, elle avait cette motion lancée il y a déjà quelque temps, avant qu'on sache que des élections anticipées auraient lieu, avant la chute du gouvernement en novembre, c'est 124 députés qui l'avaient lancé. C'est un élu de CDU qui en est à l'initiative, Mark van der Witz, qui a donné le vote. Pourquoi ? Enfin, je crois qu'il n'y a même pas eu de vote, ça a été reporté. Oui. Pourquoi ? Okay, on s'est dit que ce n'était pas le bon moment, on s'est dit que la question tombait à l'eau, tombait à plat. Enfin, pourquoi ce vote a-t-il été reporté ?
Alors, déjà, rappelons qu'effectivement, pour interdire un parti, il n'y a que la Cour constitutionnelle qui soit compétente pour le faire, sur proposition soit du gouvernement, soit des deux chambres du Parlement, donc en l'occurrence, effectivement, le Bundestag, la chambre basse. Le problème, effectivement, est un problème, quelque part, c'est l'argument d'Alice Weidel, est effectivement, vous voulez nous interdire, mais on fait 20%, et dans pas mal de coins d'Allemagne, maintenant, on est le premier parti. Donc ça pose effectivement quand même un problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est pas la question qui se pose, mais politiquement, elle se pose quand même. Et il aurait, à ce moment-là, fallu interdire le parti au début. Rappelons effectivement que c'est un parti relativement jeune, hein, il date de 2013, donc relativement jeune. Le problème aussi, c'est que c'était difficile de les interdire à l'époque, parce que, et ça joue, mine de rien, c'était le parti était beaucoup moins radical à l'époque. Et d'ailleurs, il poursuit une stratégie qui est l'inverse de celle qu'on observe au moins dans le discours de celui de la France, c'est-à-dire qu'on est dans un parcours de plus en plus radical. Hein, sauf que comme ça marche quelque part, effectivement, interdire un parti qui fait 20%, c'est difficile. Il n'y a que deux partis qui ont été interdits en Allemagne, enfin en Allemagne fédérale, dans les années 50. En 52, si je me souviens bien, c'était un parti, même pas néo-nazi, mais nazi en fait, c'était les mêmes qui revenaient. Et en 56, si je ne m'abuse non plus, c'était le KPD, donc le Parti communiste d'Allemagne, qui était censé être un sous-marin de RDA. Mais donc, c'est assez rare que ça... Et là aussi, et ça c'est le côté état de droit, c'est quand même pas facile d'interdire un parti. Hein, on a essayé d'interdire au début des années 2000 le NPD, qui était... ça n'a pas abouti pour un vice de forme. C'est-à-dire qu'en fait, on savait très bien que c'était un parti
néo-nazi.
Il y avait aucun doute là-dessus. Le problème, c'est que ça reposait sur des informations qui provenaient aussi des services de renseignement intérieur. Donc, il y avait quand même la question de la validité finalement des thèses.
Donc, ça, de toute façon, c'est une procédure très lourde, et c'est aussi pour ça que le vote de la motion a été reporté. On a eu trop peur de donner des arguments à l'AFD juste avant l'élection. Ça a été renvoyé en commission, et de toute façon, même si ça avait été voté, cette motion, ça n'aurait pas signé l'interdiction immédiate de l'AFD. Tout ça enclenche ensuite des procédures très lourdes. Est-ce qu'on peut dire, Bénédicte Lomont, que Alice Weidel, cette femme qui aujourd'hui représente l'AFD pour les élections, qui a elle-même un parcours très étonnant, elle ne se cache pas d'être homosexuelle, elle vit avec une femme d'origine sri-lankaise, ce qui doit énerver beaucoup de gens au sein de son parti, au sein de l'AFD. C'est une ancienne analyste de Goldman Sachs qui vit en Suisse. Bon, elle pose plein de questions, mais c'est elle que son parti a désigné pour le représenter aux prochaines élections. Est-ce qu'elle cherche à se dédiaboliser, cette expression journalistique qui est sujette à caution par ailleurs, mais qui est très employée dans les médias en France depuis longtemps au sujet de Marine Le Pen? Est-ce que vous croisez son équivalent, ce terme de dédiaboliser dans la presse allemande et dans les discours? Est-ce qu'elle cherche à...
Beaucoup moins. Le processus de dédiabolisation est de toute façon beaucoup moins possible en Allemagne, puisque, comme le disait Étienne Dubslav, le parti est dans un processus de radicalisation quand même depuis au moins 2015. Donc ça, c'est un premier élément. Néanmoins, on peut le retrouver, effectivement, le fait que le parti est présente aujourd'hui une femme lesbienne comme tête d'affiche. On peut le retrouver parfois en pointillé sur des questions comme l'antisémitisme, où le parti, alors suite à un certain nombre de sorties antisémites de leur leader, essaie de naviguer dans un discours relatif, on va dire, de dédiabolisation par rapport à ce que cette famille politique a pu porter comme discours ces dernières décennies. Mais très clairement, quand on compare avec ce qu'on connaît en France, le processus de dédiabolisation n'est pas enclenché. Pfützen in den Augen, Himmel blau wie der Ozean.
Salz auf der Haut und Zucker aus der Dose. Ich glaub, die Broschüre hat irgendwie gelogen. Komm, Paradies, komm, glätte meine Wogen. Tränen tropfen laut auf den Strandbadresen. Passe hier nicht ins Kap, hier lang kein Regen. Es holt mich wieder ein im Handumdrehen. Komm, Paradies, benimm dich nicht daneben. So ziehen die Tagen. Alles schwarz, weiß ich glaube. Ich weiß noch, wie es dazu kam. Zu viel unterwegs, zu viel passiert im letzten Jahr. Jeden Traum erfüllt, wie soll ich träumen ohne Schlaf? Sag mir Paradies, was hab ich dir getan? Und ich lauf barfuß durch die Tropen, mir ist nichts wie damals. Schleppe mich ins Dunkel, hab nen Hitzeschaden. Herz wiegt eine Tonne, will es nicht mehr haben. Herz wiegt eine Tonne, will es nicht mehr haben. So zieh die Tagen. Alles schwarz, weiß ich glaub.
La rappeuse et actrice allemande Nina Chouba et sa chanson Farbenblind. C'est une chanson qui date de l'année dernière, ça veut dire daltonien. C'est le premier épisode d'une série que nous consacrons à l'Allemagne cette semaine dans Culture Monde avec les élections qui se profilent le 23 février prochain. L'extrême droite est aujourd'hui au centre du jeu politique, même si le chef de la CDU s'en défend. Des dizaines de milliers de manifestants lui ont reproché ses manœuvres électorales pour séduire l'électorat d'Alternative für Deutschland, AfD, et surtout d'avoir compté sur ses voix pour voter un texte sur l'immigration, un échiquier politique dont les lignes ont donc progressivement bougé vers la droite, tandis qu'à l'extrême gauche, le parti Die Linke fait une petite crise d'obsolescence.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Depuis trois ans, nous sommes passés sous la barre des 5% à cause de l'une des politiciennes les plus connues de notre parti, Sarah Wagenknecht, qui a joué sa carte personnelle et s'est mise à faire campagne contre nous. Après son départ du parti, on s'est demandé un moment ce qu'elle allait faire, mais on s'est rapidement rendu compte qu'elle allait contre nos intérêts et ceux du peuple. Dieu merci, malgré tout, la gauche est toujours là, avec un programme plus social que jamais. Nous sommes les seuls à tenir ce cap durant cette campagne et c'est la raison pour laquelle je suis confiant dans l'issue du scrutin. Nous allons monter dans les sondages.
Jan van Aken, président et tête de liste du parti Die Linke pour les élections ici sur la chaîne allemande CDF. Il se sait en mauvaise posture pour les élections du 23, surtout avec la concurrence de Sarah Wagenknecht, ancienne figure du parti qui a pris la tête de sa propre formation, le BCV. Quel espace politique Die Linke peut-il encore trouver? Bonjour Dominique Herbet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes professeur de civilisation allemande et d'études germaniques à l'université de Lille. Vous avez écrit un article récemment dans la revue L'Allemagne d'aujourd'hui qui est chronique d'une autodestruction annoncée en parlant du parti Die Linke. Quand ce parti a-t-il amorcé sa descente électorale?
Alors, la question. Alors, si on présente Die Linke est intéressant parce qu'on est dans le contexte de la montée des populismes depuis, on va dire, 2015, la crise migratoire. Et puis, il a participé, par contre, à partir de 2007, à la recomposition d'un paysage politique allemand qui est en perpétuelle évolution, comme vous l'avez aussi montré précédemment. Et troisième chose, Die Linke, comme beaucoup de partis d'extrême gauche, il est considéré comme tel par l'Office de protection de la Constitution allemande, a toujours été, de toute façon, divisé. Donc, ils ont toujours eu un courant principal, mais ils ont toujours eu des divisions internes. Donc, c'est pour ça que cette chronique un peu autoproclamée, comme je l'ai appelée, a commencé peut-être même dès sa création, puisqu'il est issu d'un parti de l'Est, on va dire, pour faire simple, et d'une nouvelle alliance électorale de l'Ouest. Et forcément, il y avait aussi des divergences dès le départ. Elles se sont accentuées autour de la crise migratoire, mais il y a aussi un clivage très profond autour du soutien aux Palestiniens dans le contexte du conflit israélo-palestinien et du débat sur l'antisémitisme. Donc ils sont divisés, ils sont clivés.
Dans les instances dirigeantes du parti, comment est-ce qu'on envisage les élections du 23? Là, on entendait Jan van Aken être assez, non pas optimiste, mais avoir un peu d'espoir. Il se trouve que les intentions de vote, on n'a pas trop l'habitude en culture monde de trop étudier les intentions de vote, mais néanmoins, elles se sont pas mal redressées ces derniers temps. Comment l'expliquer pour Die Linke?
En fait, on a un léger croisement. Il semble que le BSV donc de Sarah Wagenknecht baisse de 8% à 4,5 ou 4,9. Vous savez qu'il y a plusieurs instituts de sondage. La moyenne que j'ai consultée ce matin montrait Die Linke qui remontait à presque 5% et le BSV qui pouvait descendre en dessous des 5%. Vous savez que la clause des 5% est importante parce qu'un parti n'a de groupe parlementaire, de représentants au Bundestag que s'il franchit les 5% des voix. Avec une autre possibilité, obtenir 3 mandats directs. Donc Die Linke est représentée actuellement grâce aux 3 mandats directs, puisqu'en 2021, ils n'ont eu que 4,5%. Donc les enjeux sont extrêmement forts pour Die Linke. Pourquoi est-ce que Die Linke pourrait en fait remonter? Parce que c'est très difficile d'être interchangeable. Finalement, Wagenknecht, elle a choisi le programme social, c'est aussi une économiste, mais avec une composante pro-russe très marquée, et anti-migrante. Or, elle est échangeable avec l'AFD, de ce point de vue-là. Du point de vue du programme social, Die Linke, finalement, a sa tradition, qui est réelle, d'un programme social marqué. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une petite perte de crédibilité, finalement, du BSV actuellement, et que Die Linke espère remonter. Mais tout ça va être très incertain, puisqu'on est juste aux alentours des 5% qui permettent ou pas d'entrer au Bundestag, alors que les libéraux vont être en dessous pour l'instant.
Donc il faudra voir aussi quel score fera le BSV de Sarah Wagenknecht qui a quitté le parti en quelle année d'ailleurs, je ne sais plus exactement quelle année, mais elle était déjà critique dès 2015-2016, elle était déjà critique de la ligne officielle de Die Linke. Et donc, quels sont les électeurs qu'elle attire et qui donc quittent Die Linke ou qui ne lui octroient plus leur confiance et qui votent aujourd'hui pour Sarah Wagenknecht?
Alors, Wagenknecht, elle est ancienne communiste, donc elle en garde quand même, bien sûr, une volonté de spécifiquement représenter les intérêts de l'Est. Elle est anticapitaliste, ça, ce sont tous ses écrits, mais elle a aussi autour d'elle la frange qui est pro-palestinienne. Par exemple, Amira Mohamed Ali, qui est son bras droit, qui est chargée d'organiser cette nouvelle structure, puisque le parti est très récent, elle est de la frange pro-palestinienne.
Donc elle attire à elle des électeurs qui la suivent sur ces questions-là, qui la suivent aussi sans doute sur son rejet de l'immigration, puisque ça fait déjà depuis 2015-2016, depuis la crise migratoire, qu'elle dit ouvertement que la gauche, l'extrême gauche allemande doit rejeter l'immigration et très certainement que dans ce cadre-là, elle a également pris des électeurs à l'AFD, à Alternative für Deutschland. Les électeurs hostiles à la logique de coalition aussi, dans laquelle s'était lancé le parti Die Linke au niveau local, que ce soit avec le SPD ou les Verts, ça c'est quelque chose qui est de nature à lui faire gagner ces voix-là. Enfin, il y a vraiment une défiance d'anciens électeurs de Die Linke quand ils ont vu que leur parti s'alliait avec des partis plus traditionnels, un peu tous azimuts dans les Länder.
Oui, c'est parfaitement exact. Enfin, quand vous devenez un parti de gouvernement, comme on dit, surtout en Allemagne, où il y a une culture de la constitution de coalition, il y a un travail qui peut durer des mois à l'échelon national pour former une coalition, forcément, vous êtes obligé de faire des compromis. Et donc, il est évident que les Verts, d'abord, dans les années 90-2000, Die Linke à l'échelon régional, puisqu'il y a encore ce fameux plafond de verre pour l'échelon national, qui concerne pas seulement l'AFD, qui concerne aussi Die Linke jusqu'à présent, naturellement, Die Linke a dû trouver des compromis. Ça, c'est la difficulté de gouverner. Donc, de ce point de vue-là, elle a pu rassembler des gens. Ce qui est quand même stupéfiant pour l'Allemagne, peut-être même pour l'Europe, c'est créer un parti qui porte le nom d'une seule et unique personne. Cette icône, un petit peu, avec un physique à la Rosa Luxembourg, comme on l'a toujours dit quand elle a commencé à monter. Et c'est peut-être ça aussi qu'elle peut payer parce que, après c'est une très petite structure, toute récente, avec évidemment peu d'adhérents, pas de structure de parti, faut voir comment ils auront pu gérer la campagne, quoi.
Bon, en tout cas,
mais c'est très passionnant.
Oui, c'est passionnant, c'est compliqué et plein de nuances, puisque par exemple on voit aujourd'hui que quand le BSV fait des alliances au niveau local, c'est avec les conservateurs de la CDU, tout à l'heure je me suis trompée, j'ai dit qu'en Thuringe, c'était avec le SPD que l'alliance Sarah Wagenknecht avait monté une coalition contre l'extrême droite. En fait, c'est avec les conservateurs. Elle est la femme d'Oscar Lafontaine, qui, chef historique de Die Linke, qui a payé cher en 2022 sa coalition avec le SPD à l'échelle locale. Donc tout ça est plein de nuances et passionnant à observer. Peut-être juste un mot pour conclure, Dominique Herbet. Est-ce que ces nouvelles concurrences ont conduit Die Linke à changer quelque peu de ligne, ou est-ce qu'il reste fidèle à ses principes et ses valeurs originelles?
Écoutez, j'ai globalement regardé leur programme. Je pense qu'ils sont surtout restés fidèles. C'est dans leur intérêt d'accentuer évidemment l'exigence sociale et donc d'avancée sociale et sociétale qu'ils marquent très très nettement. Mais leur ADN de toute façon était quand même pacifique. Hein. Le PDS, leur prédécesseur, avait accentué ce refus de toute guerre et donc de ce fait aussi la sortie de l'OTAN. Hein, que Wagenknecht d'ailleurs réutilise. En fait, elle n'a pas tout créé, elle a juste accentué deux points pour se différencier de Die Linke en se rapprochant de l'AfD et essayer d'obtenir des voix. Quand on regarde les reports de voix, rien n'est très clair. Quand on regarde les reports de voix au dernier régional, donc de septembre, rien n'est très clair. Die Linke a perdu des voix aussi vers les sociodémocrates, vers les chrétiens démocrates, qui sont des conservateurs, vers l'AfD. Donc, ce qui est clair, si vous voulez, pour terminer, c'est que dans les nouveaux Länder, enfin, les Länder de l'Est, dans l'Est de l'Allemagne, l'AfD a quand même chassé Die Linke avec des pourcentages à 20% que Die Linke ne peut plus faire, alors que c'était une constante dans les années 90-2000, quoi.
Merci
donc là,
beaucoup.
Die Linke a perdu une pole position à l'Est, c'est évident.
Merci beaucoup, Dominique Herbet. Une réaction peut-être de nos invités sur ce léger rebond qui semble s'être opéré ces tout derniers jours pour Die Linke.
Oui, alors effectivement...
Bénédicte Lomont.
Il va falloir voir si ça se confirme, hein. Tout ça est très fragile. Cependant, on a aussi l'impression que parce que Die Linke, précisément sur les questions sociales, sur les questions sociétales, est resté un petit peu dans sa voie, est resté libéral d'un point de vue sociétal, d'un point de vue migratoire notamment, que le parti peut-être, à l'aune des discussions qu'il y a actuellement, des manifestations aussi, peut grappiller quelques pourcentages de voix à des partis de centre-gauche, que ce soit le SPD ou Die Grünen. Affaire
et
à suivre.
Affaire à suivre, et quand il y a des alliances au niveau local, comme celle dont on parle en Thuringe, entre l'alliance Sarah Wagenknecht et la CDU, par exemple, est-ce que ça tient pour l'instant, Étienne Dubslav? C'est tout récent, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des querelles, soit idéologiques, soit sur la forme, des questions, sur les questions vraiment régionales?
Alors, pour l'instant, effectivement, ça tient. Je voudrais revenir peut-être sur autre chose. Il y a aussi quand même le SPD qui, sur les 10-12 dernières années, c'était pas tellement visible sous Merkel, mais a quand même opéré un virage un peu à gauche. Et donc, on a quelque part, contrairement à ce que peut dire Merz d'ailleurs, effectivement, il n'y a pas de majorité à gauche, mais il y a quand même aussi une reconcentration, si je puis dire, sur les questions salariales, les questions de salaire, le salaire minimum. Il y a les questions du travail, les questions de l'industrialisation, où il y a à nouveau possibilité éventuellement de s'entendre un peu, au moins, entre Linke et sociodémocrates, même si effectivement il y a quelque part aussi une sorte de cordon sanitaire autour de Die Linke, mais pas avec les Verts, par contre.
En tout cas, merci beaucoup. On verra le 23 février comment s'opèrent les reports de voix, quel land vote pour qui. Ce sera nécessairement très très intéressant à suivre, et je vous remercie d'être venu poser les enjeux de ces élections, Bénédicte Lomont, Étienne Dubslav. Et Bénédicte Lomont, je renvoie également à vos travaux sur la société allemande qui continue à s'opposer massivement à l'AfD, à l'extrême droite, les entrepreneurs, le patronat aussi, par exemple, des entreprises de bière qui refusent de livrer les hôtels qui accueillent les congrès de l'AfD et autres initiatives de la société civile. Merci d'avoir été avec nous.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
En Israël, Catherine, les otages libérés commencent à donner un aperçu de leur calvaire.
Ils ont notamment été affamés, au point que les images d'Oad Ben Ami, 56 ans, Eli Charabi, 52 ans, Orlevi, 34 ans, les trois otages libérés avant-hier, au visage émacié, jambes chancelantes, ont été comparées aux photos des survivants des camps de concentration, comme on peut le lire dans le Times of Israel et le journal Haaretz. Après 491 jours en captivité, leurs corps sont un rappel effrayant de ce qui se passe lorsque le monde reste les bras croisés pendant que le mal l'emporte, dénonce le Jérusalem Post. En voyant par exemple son père, Oad Ben Ami, être contraint par le Hamas de monter sur une estrade à Deir el-Bala dans le centre de la bande de Gaza, sa fille, Ella, confie au journal Maariv avoir regardé en pleurs ses clavicules, sa maigreur, la cruauté de la mise en scène du Hamas. Mon père a traversé des horreurs et nous n'avons même pas encore commencé à entendre l'enfer dans lequel il se trouvait. Mais elle se réjouit tout de même d'avoir désormais toute la vie pour profiter de lui. Après les retrouvailles émouvantes, les larmes de joie initiales des familles d'otages qui ont retrouvé leurs proches, comme l'ont montré les médias israéliens et la BBC, place à l'effroi. Première réalité tragique pour Eli Charabi et Orlevi, libérés samedi, apprendre que leurs épouses ont été tuées lors des attaques terroristes du 7 octobre, explique le Jérusalem Post. Les deux filles d'Eli Charabi, Noya, 16 ans, et Yaël, 13 ans, ont également été assassinées le 7 octobre. Et puis, retenues dans des tunnels du Hamas où il était parfois impossible de se tenir debout, les anciens captifs étaient délibérément affamés. Ils ne recevaient souvent qu'un quart de pita, qu'un quart de pain à manger par jour, raconte la chaîne d'information 12 en Israël. Une seule douche autorisée sur plusieurs mois, forcée à être pieds nus. Des interrogatoires également sous la torture, ajoute la chaîne publique israélienne Kan 11. Les otages ont été étranglés, bâillonnés avec du tissu jusqu'à suffoquer, pendus la tête en bas et brûlés, énumère encore à Haaretz. La 13e chaîne israélienne explique que les ravisseurs du Hamas narguaient les otages en expliquant que le gouvernement israélien ne voulait pas les libérer. Ils mangeaient parfois devant eux, les forçaient à choisir celui qui mangerait, celui qui ne mangerait pas, décrit Haaretz. Et de manière cynique, dénonce Maariv, ce n'est qu'avant leur libération, leur retour en public, que les otages ont reçu davantage de nourriture de la part des terroristes. Tous les otages doivent être rapatriés avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'éditorial du Jérusalem Post, presque sous forme de supplique, pour exhorter notamment Donald Trump à accélérer la libération des 73 otages restants. Un autre moment qui exige une clarté morale et une action immédiate, explique le Jérusalem Post.
Et ces images, ces informations pourraient nourrir la prochaine guerre entre Israël et le Hamas ?
C'est ce que craint en tout cas le journal israélien Haaretz. Les Israéliens sont en colère après les mises en scène du Hamas au moment de libérer les otages, après avoir vu aussi une foule de Palestiniens se moquer d'Arbel Yehoud, 29 ans, amaigri et sans défense, c'était il y a plus d'une semaine, alors que les otages racontent aussi leur détention dans les locaux de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, le refus aussi du Hamas de soins médicaux pour les otages blessés, ajoute Sky News, ou encore les viols et les agressions sexuelles commises contre les femmes otages et dont a osé parler au New York Times notamment Amit Soussana, retenue captive à Gaza pendant 55 jours. Le journal Haaretz tient à rappeler que les Palestiniens sont soumis à un processus miroir, tout comme les Israéliens ignorent tout ce que leur société a fait de mal à Gaza, note Haaretz. Les Palestiniens minimisent les crimes de certains prisonniers palestiniens libérés ces derniers jours, notamment ceux qui ont commis des attentats suicides contre des civils israéliens. Ils préfèrent mettre l'accent sur les Palestiniens détenus pendant d'innombrables jours sans aucune accusation. Le résultat, une région en proie à la colère. Les Israéliens sont persuadés du pire pour les Gazaouis, écrit Haaretz, et ce sentiment est réciproque.
Et pour finir, Catherine, les pays baltes ne veulent plus dépendre de Moscou sur le plan énergétique.
La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont coupé le cordon électrique avec Moscou. Les pays baltes se sont déconnectés avec succès ce week-end du réseau électrique russe pour se connecter à l'Union européenne, explique le journal estonien Pojaranik, jour de l'indépendance énergétique des pays baltes dont se félicite le quotidien économique lituanien Verslo Zinios. Un clic, un silence, puis des sourires et des félicitations. C'est comme cela que s'est déroulée la déconnexion du réseau électrique russe, montre LSM, la télévision publique lettonne, au milieu de lignes à haute tension, dans un paysage enneigé. Et le quotidien économique lituanien Verslo Zinios estime qu'après avoir restauré l'indépendance politique au début des années 90, il est temps d'atteindre l'indépendance énergétique complète, alors que les pays baltes se sont engagés aux côtés de Kiev dans la guerre en Ukraine.
l'Ukraine. Il faut faire attention à d'éventuelles représailles russes, estime LSM. Au cours des 18 derniers mois, au moins 11 câbles électriques passant sous la mer Baltique ont été endommagés, rappellent le Guardian et la BBC. Et tout récemment, un navire de la flotte pétrolière fantôme russe a été accusé d'avoir endommagé la principale ligne électrique estonienne dans le golfe de Finlande.
Merci beaucoup Catherine Dutu.